quoi le plan ? Une effervescence d'avenir, d'égalité et de justice secoue la France et le monde. Jusqu'à présent, elle n'a pas su enclencher le frein d'urgence sur la voie des catastrophes planétaires et des dominations quotidiennes. Nous avons fait l'expérience de la force immense que nos luttes devront accumuler ensemble pour ébranler l'ordre existant. C'est quoi le plan ? Un podcast de la revue Contretemps propose de débattre de toutes nos stratégies pour bâtir un autre monde. Parfois, par chance, nous avons vu le monde d'après. Dans C'est quoi le plan ? Nous accueillons toutes les voix de celles et ceux qui en cherchent les chemins. Tous les guides de survie, les programmes, toutes les transitions, les planifications, tous les plans d'attaque nourrissent le débat stratégique. D'une façon ou d'une autre, les empires d'aujourd'hui seront les cendres de demain. Ils pourraient bien entraîner l'humanité dans leur chute. Alors, quel autre horizon nous reste-t-il ? Que faire pour l'atteindre ? Nous vous offrons une nouvelle réponse à chaque épisode de C'est quoi le plan ?
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie du podcast sur la sécurité sociale de l'alimentation. C'est le podcast C'est quoi le plan de la revue Contretemps, son podcast stratégique. Donc, nous recevons pour cette deuxième partie, toujours avec un grand plaisir et enthousiasme, Laura Petersel et Kevin Certenay, qui sont autrices et auteurs de Régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation, qui avait été dans un premier temps publié chez Riot Éditions et qui est republié aux éditions syndicalistes. Donc, nous avions eu l'occasion, dans une première partie, d'évoquer la question du travail, question absolument majeure sur ce projet de sécurité sociale de l'alimentation. La question évidemment connexe et tout à fait liée de la propriété. Et nous avions terminé l'épisode précédent en disant et en citant Laura et Kevin que le collectif est un être puissant. Alors on va en parler d'autant plus que nous allons aborder désormais ce que vous avez appelé dans le livre, Kevin et Laura, bonjour.
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 Que vous avez appelé la gouvernance. Alors moi, j'avoue que le terme de gouvernance, en tout cas dans un premier temps, j'ai toujours un réflexe un peu répulsif par rapport à ce terme, parce qu'on connaît à peu près ses origines, sa généalogie, notamment du côté des grandes institutions internationales, le FMI ou encore l'Union européenne. Mais en fait, vous réappropriez le terme. En fait, c'est toujours cette idée aussi qu'on ne va pas se faire non plus déposséder de termes qui peuvent nous être utile. Et donc là, en fait, vous en parlez avec, dans une manière extrêmement concrète et aussi bien évidemment émancipatrice. Et je voudrais commencer en disant que, comme on l'avait souligné dans la première partie de ce podcast, on apprend beaucoup au-delà même de ce projet que je trouve encore une fois extrêmement précieux de sécurité sociale de l'alimentation, mais on réfléchit beaucoup à nos pratiques. Et donc l'un des exemples que vous choisissez au moment de parler de la gouvernance, hein, comment ça va fonctionner, comment on va se partager aussi cette manière de s'organiser. Vous prenez le cas de l'Équateur, hein, et des discussions qui peuvent se dérouler dans certains milieux, justement paysans, ou pas seulement, mais des milieux engagés. Le fait de ne pas parler comme ça, juste pour le plaisir de parler, ou parler pour ne rien dire, etc., est un peu contré par le fait que chaque personne qui veut parler pose un haricot au centre du cercle, en quelque sorte, pour dire, voilà, je vais nourrir la discussion. Et j'ai trouvé que cet exemple, il était tout à fait révélateur de votre livre en général. C'est-à-dire que vous voulez vraiment nous alimenter aussi en propositions concrètes. Et comme on l'avait rappelé dans la première partie, avec un mélange de modestie, mais aussi d'une grande force de proposition avec beaucoup de détermination. Alors, sur cette question de la gouvernance, donc, vous, ce que vous proposez, c'est que toute la valeur ajoutée dans la filière alimentaire soit socialisée, hein, on en avait parlé à propos de la propriété, et que ce soit sous la forme d'un conventionnement, comme ça existe déjà à travers de la sécurité sociale dans le domaine de la santé, notamment, ce soit des caisses, en fait, qui permettent de régir cette socialisation. Et donc la question, c'est quelle forme de démocratie, hein, là vous y insistez beaucoup, quelle forme de démocratie populaire, de démocratie vraiment directe peut être proposée, donc avec la question du mandat, la question du tirage au sort, la question de la rémunération de celles et ceux qui vont sans doute à tour de rôle, avoir à s'occuper de ces caisses. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre proposition, plus concrètement et plus précisément que je ne l'ai fait là, trop rapidement ?
Bon, du coup, je m'y colle. En effet, le mot gouvernance, c'est, ça va pas. On n'en veut pas de ce mot-là. Mais ça nous a intrigué et amusé de nous rendre compte à quel point, en fait, on n'arrivait pas à trouver le mot juste pour dire ce qu'on avait envie de dire dans cette partie-là. Parce que très vite, c'est le mot démocratie qui vient. Et en fait, s'il y a bien un truc qu'on a appris, notamment à Réseau Salariat et dans notre cheminement, c'est bien que la démocratie ne se résume pas à l'espace de délibération citoyenne, on va dire. Et ça, c'est un des grands enseignements pour nous. C'est un peu cette espèce de mythe dans notre société actuelle que la politique, elle se joue au niveau des élections tous les 5 ans. Bon, un peu plus parce qu'il y a les élections législatives et municipales. Mais en gros, ça se joue là. C'est ces gens-là qui font politique. Et puis à côté, il y a un secteur économique, mais ça n'a rien à voir. Et alors ça, s'il y a bien un truc que Bernard Friot nous a appris, c'est bien que l'économie, c'est sacrément politique. Et donc, faire démocratie, c'est bien prendre le pouvoir au niveau économique, parce que c'est politique. Et donc, dans cette partie-là du livre, c'est une partie parmi 5 autres. Comme tu l'as bien dit, pour nous, tout ça se tient. Et donc là, c'était l'endroit où on avait envie de parler de comment on s'organise pour la prise de décision hors du collectif de travail, mais quand même en lien avec le collectif de travail. Donc sur cette question alimentaire, puisqu'on est bien dans une idée de sécurité sociale de l'alimentation. Et alors, on s'est dit, c'est notre cheminement, hein, et c'est à chaque fois comme ça qu'on a fonctionné, c'est quoi l'analyse de l'existant? Qu'est-ce qu'il est, l'existant, et pourquoi il ne nous va pas? Et alors, du coup, vers quoi on a envie d'aller? Et alors, bon, pourquoi il ne nous va pas, je ne vais pas trop y revenir. Je pense qu'on peut dire Macron, et c'est bon, c'est réglé. Non, mais voilà, là, si on a envie d'employer des jolis mots, parce qu'on aime bien, on a le mot plutocratie, et un mot qu'on aime assez bien. Voilà, et donc, c'est vraiment l'idée que c'est cette élite bourgeoise, blanche, masculine, qui est censée représenter le peuple. Bon, bah, pardon, mais non. En fait, on ne considère pas que ça, c'est faire démocratie. Alors du coup, on a gardé ce mot gouvernance puisque c'était sur cette idée de mécanique de l'organisation collective. Et alors on s'est dit, quand même, il nous semble que le plus intéressant, c'est de pouvoir prendre des décisions à des échelons qui font que tout le monde peut participer à la prise de décision. Et ça nous a ouvert des champs de réflexion super intéressants. Et d'ailleurs, c'est probablement un des endroits où on est les plus flous dans les propositions, parce qu'en fait, on pense vraiment qu'il y a besoin, nécessité de mettre en discussion, de le mettre en débat, et que de toute façon, tout ça sera le fruit du rapport de force qu'on arrivera à construire. Parce que une fois qu'on a dit qu'on veut que ce soit une échelle accessible, bon, et après? Alors, du coup, il y a l'échelon local, il y a la notion de bassin de vie, qui est en plus une notion travaillée par d'autres sachants. Il y a une notion aussi de bassin de production, qui peut vraiment avoir du sens aussi dans une idée de production de nourriture, mais qui touche aussi à ses limites. Hier, on faisait une intervention à Paris, où du coup, les Parisiens nous ont dit « Vous êtes sympa avec votre truc, mais nous, on est mal barrés ». Bon, donc voilà, donc on peut discuter de ça et débattre de ça, mais en tout cas, c'est cette idée d'avoir un échelon, on va dire local, avec toutes les guillemets que le mot mérite, pour pouvoir participer à la prise de décision. Après, on se leurre pas sur le fait qu'il va y avoir besoin de gens qui seront détachés pour porter plus avant l'exécution de ces prises de décision, et donc par des mandats. Et là, on fait la proposition du tirage au sort, qui a ses limites aussi, mais en soi, c'est l'idée qu'on peut faire autrement que le vote. Qu'il existe plein d'autres formes de désignation de personnes pour, à un moment donné, incarner une certaine forme de pouvoir à un certain endroit. Et on trouve que le tirage au sort, il a de ça d'intéressant que, c'est peut-être pas les gens qu'on aurait imaginés au départ. Et on se dit que si on met les conditions en face pour permettre réellement d'assurer le mandat, et notamment avec une indemnisation, une rémunération, avec un temps peut-être de formation, ou en tout cas de passation, de transmission, alors peut-être que les personnes qu'aujourd'hui on ne voit pas dans ces espaces-là, peut-être que demain on les verra. Parce que là aussi, on est parti de ce qu'on connaît et ce qu'on constate. Encore une fois, là je parle quand même beaucoup de la France parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, mais mon petit doigt me dit que ce n'est pas vrai qu'en France, c'est que dans nos associations, nos partis politiques, nos syndicats, nos collectifs, aussi militants gauchos et convaincus qu'ils soient, c'est un peu quand même souvent beaucoup toujours les mêmes, c'est-à-dire les hommes blancs de plus de 50 ans et plutôt de la petite bourgeoisie. Pardon pour eux, ils n'aiment pas qu'on les qualifie comme ça, mais qui prennent les postes à pouvoir et pour plein de raisons qui les dépassent, parce qu'on est dans un système et qu'on est pris dans ce système. Et que ce n'est pas une question d'individu, mais c'est bien une question de rapport de domination dans lequel on est aliéné. on n'a pas la prétention qu'on va arriver à dépasser tout ça d'un coup et en un claquement de doigts, mais par contre, ce qu'on invite, en tout cas, c'est l'ambition, c'est vraiment de... Quels sont les outils et les mécanismes qu'on peut mettre en œuvre dans nos pratiques collectives, dans nos pratiques sociales, pour aller vers une société idéalement débarrassée de ses rapports de domination, à minima, qui les combatte et qui les lutte et qui les regarde en face, déjà, pour commencer.
Ouais. Et cette proposition d'organisation, de qui composerait en fait ces futures caisses locales et futures caisses au-delà, parce que l'idée c'est qu'elles soient en fédération ou en tout cas de réseau entre ces différentes caisses locales. La réflexion, ça s'appuie aussi par rapport au régime général de sécurité sociale où en fait en 46, lorsque tout ça se met en place sans personnaliser mais sous l'impulsion... d'Ambroise Croizat, qui est un ministre du Travail, et qui, du coup, où le régime général se met en place, il y a des élections professionnelles qui se déroulent ensuite, et qu'entre 46 et 67, c'est géré à 75% par des représentants de syndicats salariés. Et il y a 25% seulement de patrons. Et donc, je dis jusqu'en 67, parce que sous De Gaulle, il y avait, du coup... Le patronat va être ce qu'on appelle le paritarisme, 50-50. Et donc après, il y a toujours eu un syndicat de salariés pour s'allier au patron. Et donc du coup, qui fait que depuis ces années-là, en fait, c'est le patronat qui influence. Et puis ensuite, l'État qui s'est immiscé de plus en plus. Et là, on retrouve bien l'alliance entre le patronat et l'État bourgeois, qui du coup, petit à petit, a gelé les cotisations, a gelé la socialisation de ce qu'on produit. Et en fait, là, ce qu'on voulait noter aussi et insister, c'est sur le fait que se sont d'abord attaqués à reprendre les lieux de pouvoir avant de s'attaquer à récupérer le fric en fait, qu'on produit. Quoi. Et donc là, c'est aussi... Voilà, c'est pour ça qu'on a fait aussi un chapitre à part entière sur cette question de qui décide et qui décidera demain. Et donc là, dans la proposition, nous, on parle d'une proportion aussi d'habitants, d'habitantes, du coup, qui décideront... Et donc ça, on sait que c'est des, quand on fait les présentations ou même les discussions, c'est des enjeux. Quoi. Est-ce qu'il faut que ce soit uniquement 100% les professionnels qui seraient conventionnés de la filière ? Nous, on pense qu'il faut qu'il y ait les deux, quoi, qu'il y ait à la fois les habitants et les habitantes et à la fois des collectifs de travail qui seront conventionnés, qui seront aussi dans ces caisses, ces futures caisses de sécurité sociale de l'alimentation. Pour pouvoir décider, en effet, de qui sera conventionné, qui ne le sera pas. Je ne vais pas faire des liens avec la partie d'après, mais du coup, il y aura la responsabilité de la question de l'investissement. On a fait le constat qu'il y avait 90% aujourd'hui qui est dans de la consommation, en tout cas, qui est dans de la grande distribution. C'est soit on reprend la main sur ces outils de travail et qui, du coup, est une autre forme d'organisation, soit on réfléchit à un autre système de distribution. Mais en tout cas, il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on reprend la main sur aussi tout ça. Quoi.
Ouais, et pour compléter, parce qu'on on a parlé du coup d'une échelle qui permette la participation à la prise de décision de toutes et tous, mais c'est quand même un aspect qui est pour nous fondamental, c'est de ne pas limiter la question à un échelon qui serait trop petit et qui du coup occulterait en fait quand même un enjeu qui est très fort dans le régime général de sécurité sociale et qui est avec lequel, du coup, on a la même ambition d'une idée de sécurité sociale de l'alimentation, c'est que ça touche la population. Alors, une fois que j'ai dit ça, là, on rentre dans un grand sujet qui est-ce que, comme le régime général de sécurité sociale, on s'inscrit dans l'État-nation avec les frontières françaises ? Bon, nous, ça ne nous va pas du tout. Bon, une fois qu'on a dit ça, alors, on est en réflexion et en cheminement sur comment on pourrait l'imaginer autrement. L'alimentation est là encore un sujet qui nous permet de penser autrement, de dépasser les frontières et de penser autrement les échelles de territoire, parce que c'est un enjeu mondialisé, parce que, en fait, quand on vit, par exemple, à Toulouse, on est plus près du nord de l'Espagne que de certains territoires français, et parce que, en fonction des réalités de territoire, la production d'alimentation ne sera pas la même, et donc il va y avoir des enjeux d'échange entre les différents territoires, au-delà des questions de frontières nationales. Et ça, c'est hyper important aussi dans cette mécanique de la gouvernance, pour l'appeler comme ça, c'est comment on assure que les décisions peuvent être prises à un échelon le plus local possible, mais aussi comment on assume que en fait c'est un système et qui va se jouer à des échelles plus massives. Et là, bon, on a fait des renvois ou des échos à des idées comme le confédéralisme démocratique. Il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, c'est aussi pour nous un des enjeux à retourner, ce qui est peut-être un peu trop présent souvent dans nos têtes. Aussi, on est français, hein, donc on est pétri de ça, mais ça part d'en haut et ça descend en bas. Bon, bah, c'est comment on inverse et que ça part des humains, de nous, et nous, on est en bas, et que ça fait réseau et ça fédère.
Mais oui, donc on revient à ce que vous aviez évoqué dans la première partie du podcast, c'est-à-dire les échelles et notamment les bassins de vie, hein, dont vous aviez rappelé l'importance aussi. Et du coup, bah, votre livre et votre projet, il parle vraiment non pas seulement de démocratie, on l'a dit, mais en réalité d'égalité, enfin profondément d'égalité. Et vous dites d'ailleurs à un moment du livre que l'égalité n'est pas un état, mais un processus, et que donc voilà, il est sans cesse en construction. Et il me semble que au-delà même, je l'ai dit à plusieurs reprises, de l'humilité qu'il y a dans ce livre, il y a aussi beaucoup de propositions qui sont extrêmement convaincantes, parce que vous réfléchissez vraiment très précisément, sans que ça soit clé en main, mais très précisément à la manière dont ça pourrait se faire. Donc, vous l'avez rappelé, hein, la question du mandat, la question du tirage au sort. J'ajouterai aussi celle du tuilage, hein, ce que vous appelez le tuilage, c'est ce qui permet, entre les entrants et les sortants, là, dans les caisses, pour que ça tourne, mais pour qu'il y ait aussi une sorte de transmission des savoirs et des savoir-faire. Et puisque tu as parlé de confédéralisme démocratique à l'instant, Laura, bon, bien sûr que ça fait écho, enfin bien sûr, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais ça fait écho au Rojava, à l'expérience du Rojava, donc il y a justement ces trois piliers de l'anticapitalisme, du féminisme et de l'écologie. Hein. Mais tout ça fait aussi écho, d'ailleurs tu as terminé là cette intervention avec l'idée de fédérer ou se fédérer, et bien sûr que ça rappelle aussi, vous la citez, la Commune de Paris, alors même si ça apparaît beaucoup plus ancien, mais précisément, ça relie aussi tout ce que vous vous êtes dit jusqu'à présent, notamment sur la question des coopératives de production, d'alimentation, de consommation, les cantines populaires, les marmites, comme on les appelait sous la Commune, et puis vraiment une volonté aussi de varier les échelles, de travailler à la fois à l'échelle locale et à une échelle vraiment fédérée, puisque le projet, c'était justement de fédérer les villes affranchies. Mais voilà, libéré aussi d'un travail exploiteur, que ce soit, si j'ose dire, au champ et à la ville, et pour mêler les deux. Alors, on a dit gouvernance. Il y a un autre gros mot qu'à l'origine, tu n'aimais pas beaucoup, Laura, tu l'expliques dans le livre, c'est le mot investissement. Et donc, tu racontes, parce que comme on l'a déjà rappelé, le livre, il est aussi... Enfin, il a un ton, un mélange de tons, on va dire, un mélange de styles. Il y a tous ces moments où il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a de l'expérimentation, etc. Et puis, il y a des moments plus en suspens, comme ça, où vous racontez des petits morceaux aussi d'impression, de vie, hein, des bouts d'existence concrète. Et donc, tu racontes que justement, lors d'une réunion, c'est un peu, voilà, tu arrives un peu et puis on va te parler d'investissement. Tu dis, waouh, c'est quand même pas, c'est pas forcément très exaltant, pas forcément très enthousiasmant. Et un camarade à côté de toi te dit, mais non, mais au contraire, c'est passionnant parce que là, on va découvrir comment on peut se passer des banques et des actionnaires. Donc, la question des investissements, donc comment aussi se réapproprier le terme, voilà, pour lutter justement contre tout ce qu'on a déjà dit et qu'on pourrait aussi appeler comme vous le faites, l'agro-colonialisme. Alors, sur les investissements, comment se passaient des banques et les actionnaires ?
Dans les multiples découvertes qui nous ont vachement nourris, c'est cette vision de Danielle Cargoat, sociologue du travail, féministe, sur sa vision en trois niveaux de lecture, donc l'échelon individuel, l'échelon des pratiques collectives et des pratiques sociales, et l'échelon systémique. Et en fait, je parle d'échelon, mais on pourrait parler un peu comme de poupée russe, puisqu'en fait, on est pris dans un système, on est inscrit dans des pratiques sociales, et puis on est des individus avec des relations interpersonnelles. Et c'est vrai que cette notion d'investissement, en fait, j'ai raconté cette anecdote parce que pour moi, c'est vraiment important de me rappeler comment ça n'a pas du tout été évident que je me retrouve à Réseau Salariat, que je me retrouve à m'emparer de questions qui me semblaient très éloignées de ce qui me fait vibrer, de ce qui m'anime dans la vie, et comment je les ai fait miennes, enfin j'espère en tout cas, et qu'aujourd'hui, je me retrouve là à vous en parler. Et cette notion d'investissement, et donc, dans le vocabulaire Réseau Salariat, ça donne l'idée de futures caisses d'investissement pour remplacer notamment les banques, le système bancaire. Comment je crois l'avoir fait mienne en partie sur cette idée que, en fait, c'est un peu le nerf de la guerre quand même. Hein. C'est, bah, alors du coup, On s'est réunis, on s'est dit on avait envie de déployer des collectifs de travail dans tel ou tel secteur et qui travaillons selon tel ou tel critère de conventionnement, parce qu'on n'est pas tellement revenu dessus, mais c'est quand même l'idée de se dire qu'à un moment donné, on va décider ensemble de quel type de production on veut. Et production, pas seulement au sens agricole, hein, mais bien sur l'ensemble de la filière, aussi au niveau de la transformation et de la distribution. Et alors, du coup, bah, très bien, mais comment on finance tout ça ? Alors, il y a une idée de créer une cotisation sociale qui sera fléchée pour cette sécurité sociale de l'alimentation. Mais il y a aussi cette idée importante de on va se passer des banques et des actionnaires. Et plus au-delà de ça, c'est aussi on va se passer de la logique de l'héritage. Parce que, en fait, le système capitaliste, il fonctionne d'une manière où pour monter une entreprise ou développer une entreprise, un collectif de travail, il faut de l'argent, du capital. Et le capital, il vient d'où ? Bah, soit il vient de mes poches, et donc en vrai, souvent de mes parents, de ma famille, soit je vais le chercher, et je vais le chercher où ? Auprès des banques et des actionnaires. Et donc, je suis en fait dépossédée, puisque du coup, je suis dépendant. Et mon travail, notre travail, va servir à les financer, les rembourser. Et donc, il y a vraiment cette idée de dire la subvention, elle permet ça de sortir de cette logique-là. Et c'est vraiment aussi cette idée du faire commun, puisque c'est en fait un pari collectif. C'est à un moment donné une caisse locale de sécurité sociale de l'alimentation qui se dit, on pense que c'est important de développer tel aspect, par exemple, voilà, un collectif de travail en boulangerie. On investit. Et donc, on subventionne un collectif de travail candidat, on va imaginer que ça marche comme ça, du coup, donc on lui permet de se créer et on prend le risque ensemble. Le risque économique, il est pris ensemble puisque c'est un choix collectif. Et ça nous fait complètement sortir, du coup, d'une logique de l'entrepreneuriat Startup Nation, quoi. On est vraiment sur autre chose, mais ça reste de l'investissement.
Et là encore, le déjà-là qu'on aime bien citer par rapport au régime général, c'est que du coup, dans les années 60, quand il y a la hausse de cotisations sociales, les caisses de sécurité sociale ont décidé de construire ce qu'on appelle les centres hospitaliers universitaires, les CHU. Et une grosse partie de la construction de ces CHU a pu se faire en fait avec ce mode de cotisation-subvention, qui fait que en fait, les personnes qui ont ensuite travaillé dans ces CHU ont travaillé pour soigner, pas pour rembourser la banque ou les actionnaires. Et donc là, l'idée demain, c'est se calquer sur cette même idéologie. C'est-à-dire que si c'est les caisses locales qui investissent, subventionnent l'outil de travail de l'épicerie ou de la boulangerie, etc., les collectifs de travail, ils percevront leur salaire à vie, ils seront en autogestion sur cet outil de travail, ils s'organiseront, ils produiront ce qui aura été décidé au niveau de la caisse locale, mais ils ne travailleront pas pour rembourser un propriétaire, quoi, privé, lucratif. Et après, là, je vais faire un autre clin d'œil quand même sur le côté paysan, où en fait, si on veut rendre en viable le métier, mais ce qui est vrai aussi dans les autres secteurs, quoi, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il faut s'endetter sur 10-15 ans, travailler pour accéder aux terres, pour accéder à l'outil de travail qui est devenu intransmissible, en fait, avec les grosses fermes qu'il y a aujourd'hui. Avoir des conditions de vie, faire 70 heures à pas gagner le SMIC, etc. Et on souhaite, par exemple, une des revendications de la Confédération paysanne, c'est 1 million de paysans et de paysannes. Non mais faut arrêter de nous prendre pour des cons, en fait, si c'est de nous proposer en même temps, en face, les conditions de travail qu'il y a aujourd'hui, quoi. D'où toute la réflexion et l'importance de la question de ce statut, quoi, en fait. Et du coup, là, je reviens à la première partie, la question du salaire à vie, et ce qui est valable sur l'ensemble de la filière, quoi. Et donc, c'est pour ça que cette question d'investissement, on ne l'a pas inclus dans une partie autre du bouquin, mais qu'on en a fait bien une part entière, parce que en partant du constat de là où on en est sur l'ensemble de la filière alimentation, il y a ça ne sera pas possible de passer à côté de ça, en tout cas de s'interroger sur comment est-ce qu'on reprend la main sur tous ces outils, quoi.
Ouais, et si je veux bien rajouter un mot, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a dit subvention, en fait, c'est pas non plus n'importe quelle subvention, parce que du coup, aujourd'hui, en système capitaliste avec un État bourgeois, en fait, il y a déjà de la subvention. En fait, d'ailleurs, la filière alimentation, elle est particulièrement subventionnée. On a parlé de la politique agricole commune dans l'épisode précédent. Il y a vraiment un enjeu à mesurer à quel point, en fait, aujourd'hui, les soi-disant gros acteurs de l'économie capitaliste tellement puissants, en fait, ils fonctionnent sur la base de subventions publiques très majoritairement. Et du coup, c'est déjà le cas, en fait, que la subvention, elle joue un rôle clé. Sauf qu'aujourd'hui, comme on n'a pas la main pour décider où on subventionne et dans, où on flèche, en fait, bon, bah, ça donne le système dans lequel on vit. Mais du coup, là encore, cette idée de subvention, elle n'est pas du tout déconnectée d'une réalité qui est en fait déjà celle dans laquelle on vit. Par contre, on n'a pas la main.
Donc, en fait, la finalité, puisque le cinquième axe, donc si on les rappelle, le travail, la propriété, la gouvernance, l'investissement, et le cinquième, bah, à la fois dépasse et regroupe, et en même temps, voilà, nous donne un horizon général, comme ce régime général. Donc, c'est le but, voilà, les finalités. Et d'ailleurs, bon, évidemment, vous en avez parlé tout du long, hein, et reprendre la main, voilà, c'est une expression que vous avez utilisée à plusieurs reprises, évidemment, et c'est ce que tu viens de dire, Laura. D'ailleurs, on peut parler toujours sur la question du style même de l'ouvrage, c'est que souvent, vous employez le futur. Ça montre aussi, justement, cette idée qu'on a confiance. On a confiance, on reprend confiance. Donc, on reprend la main, mais comme vous le dites, on se met en mouvement, on se met en joie. Voilà, on en a déjà parlé en introduction de ce podcast, dans la première partie. Et ça, c'est vraiment très fort dans le livre. Voilà, c'est cette idée qu'on peut, sans scrupule, au lieu d'utiliser un conditionnel prudent, même si, vous, encore une fois, vous êtes prudente et prudent, hein, vous posez des questions. Et puis, comme vous l'avez rappelé également, depuis la sortie du livre, vous avez fait de nouvelles rencontres, vous avez continué à travailler, à explorer, à élaborer, etc. Et donc, il y a d'autres questionnements qui sont soulevés et d'autres réponses qui sont apportées. Et donc, justement, dans ces finalités, peut-être en les abordant, ça serait aussi le moment d'évoquer les questionnements, y compris qui vous sont adressés ou qu'on peut entendre ici ou là, hein. Voilà, d'éventuelles objections et les manières de les dépasser. Alors, je vais au moins en citer deux pour l'instant, pour relancer cette partie-là de la discussion et pour finir bientôt ce podcast. Donc, la première, c'est, on a beaucoup parlé de démocratie, d'égalité. La première, en fait, elle a été suggérée par Thomas Piketty. Moi, il se trouve que j'ai discuté de régime général avec Thomas Piketty, etc., il n'y a pas très longtemps, et il est à la fois enthousiaste, et puis en même temps, il se dit, oui, mais en fait, est-ce que ça va pas être une usine à gaz, toutes ces caisses, est-ce que c'est pas, voilà, une reconduction, voilà, d'une forme de pouvoir, de domination? Alors, vous avez déjà apporté beaucoup de réponses, mais on pourrait éventuellement y revenir encore une fois. Voilà, on l'a souligné, il y a la question du mandat, la question du tirage au sort, etc. Mais sur la question du pouvoir, en fait, voilà, ça m'amène à poser la deuxième objection, qui est une objection qui est souvent faite aussi à Réseau Salariat, à Bernard Friot, qu'on retrouve par exemple dans une discussion qui a été menée par Friot et Lordon, hein, Frédéric Lordon et Bernard Friot, dans leur livre commun En Travail, un livre d'entretien, à savoir... Mais en fait, tout ça, c'est magnifique, puisque en fait, on se base à la fois sur du passé, du présent, du futur, mais du futur concret. On se base sur le déjà là. Et donc, ce que dit Bernard souvent, hein, c'est voilà, on va étendre. Allez, ça existe. Tu as parlé à l'instant des CHU, des centres hospitaliers universitaires. Ça, c'est un autre exemple très concret de ce qui a existé de manière justement non lucrative. Et donc, étendons, continuons. Mais simplement, voilà, la question, c'est aussi celle des obstacles que ce processus d'extension va rencontrer sur sa route, et notamment tout ce que vous avez rappelé à juste titre sur la puissance des multinationales dans ces filières, sur la puissance de leur voracité, de leur exploitation, de leur prédation. Donc, en fait, comment on articule ce type de projet avec, alors je ne vais pas la poser d'une manière qui serait beaucoup trop sectaire et classique, réforme, révolution, enfin, mais est-ce que vous pensez quand même qu'il nous faut aussi des moments d'accélération en termes de soulèvement populaire, de lutte, ou est-ce que vous estimez que voilà, la progression, elle va pouvoir se faire quasiment paisiblement par... Non mais en fait, je pense que ça peut même, disons, ça peut s'articuler tout ça. On a parlé beaucoup de variations d'échelle, mais donc il y a des variations d'échelle de géographique, hein, enfin voilà, d'espace, mais aussi des variations d'échelle de temps. Donc en fait, il me semble que précisément, vous êtes l'exemple même, et on a parlé de cette association dans laquelle tu es engagé, le plat de résistance, Kevin. Voilà, il y a de plus en plus de manières comme ça d'échapper, justement, à la fois à la propriété lucrative et à la profitabilité. Voilà. Et donc, comme ça, avec une extension sereine, mais non sans obstacle, non sans difficulté. Et en même temps, est-ce qu'il ne faut pas, à un moment, des luttes tellement fortes que ce sont aussi presque des processus révolutionnaires, dans la mesure où, comme on l'a rappelé dans l'épisode précédent, voilà, vous êtes et nous sommes radicalement anticapitalistes et que la violence du capital ne va pas nous laisser tracer notre route très tranquillement.
En fait, donc, là, le livre, on a fini de l'écrire en novembre 2021, la soirée de lancement en décembre 2021, et depuis, on sillonne la France et on répond à des invitations et on fait beaucoup d'interventions et ça nous donne l'occasion de plein d'échanges souvent passionnants, pas toujours, mais souvent. Et un des trucs qui nous frappe de manière incroyable, c'est l'état de désespoir profond dans lequel, j'ai envie de dire la classe militante, alors ce serait un concept à déployer, mais est. Et on va dire, nous, les gauchos, quoi, pour le dire comme ça. Donc, a priori, on est OK que le système ne nous va pas et le capitalisme, on n'en veut plus. Mais alors, est-ce qu'on y croit vraiment au fait qu'on peut le dépasser, ce système-là? Et c'est absolument terrifiant, je crois qu'on peut le dire comme ça, de voir à quel point nous-mêmes, on n'y croit pas, en fait. Alors, je dis nous-mêmes. J'espère que, en fait, si, on y croit. Et il y a un endroit là où ça se loge, où je pense que là, on n'est plus dans de l'intellectualisme et on est peut-être quelque chose du côté de l'irrationnel, des affects. Je maîtrise pas ce langage-là, mais c'est vraiment comment on se donne aussi la conviction que c'est possible, en fait, et qu'on peut vraiment vivre autre chose. Moi, ma trajectoire politique, elle est telle que il y a eu un moment dans ma vie où je me suis retrouvée, je pense, assez... en conscience de comment le monde est pourri et comment il est encore plus pourri que ce que j'avais cru que j'avais compris, parce qu'il y avait toujours plein de gens autour de moi pour expliquer comment j'avais pas vu tel aspect et que c'était encore pire et que demain serait la catastrophe. Et c'est pas du tout que c'est faux, et on a aussi besoin d'une grande lucidité par rapport à ça. Mais il me semble, et en tout cas c'est mon cas, moi ce qui me met en mouvement, c'est cette idée que en fait on a de la puissance. Et j'insiste sur le nous. Nous avons collectivement de la puissance. Et c'est, pour le coup, moi, c'est ma rencontre avec Réseau Salaria qui m'a notamment permis de mettre le doigt là-dessus. C'est pas uniquement là, mais c'est notamment là. J'ai eu la chance de passer un peu de temps à ACT UP Paris dans une autre période de ma vie. C'est aussi ce type d'association et de manière de penser politique et d'agir politique qui font qu'à un moment donné, on s'autorise à aller dire merde droit dans les yeux à ceux qui méritent qu'on leur dise un grand merde. Et c'est, alors c'est le dire, mais c'est sûrement aussi passer par différentes formes d'action. Sur la dimension révolutionnaire, Bernard Friot, il déploie une réflexion autour du phénomène révolutionnaire qu'il inscrit dans un temps long. Je laisserai Kevin en parler parce que... Mais c'est... Enfin, je crois que Kevin et moi, et parfois Kevin ou moi, on n'est pas toujours d'accord sur tout, on se situe exactement à ces endroits-là de on est communiste, on est libertaire, on est peut-être rien de tout ça, mais si, quand même beaucoup. Voilà, on est... le grand soir, c'est extrêmement enthousiasmant, et en même temps, c'est quand même aussi passer à côté de plein d'enjeux, parce que ça s'inscrit dans le temps long, l'histoire. Bah oui, mais le temps long, c'est long. Et quand même, on a besoin aussi d'actions immédiates. Et je crois que tu l'as très bien dit, Ludivine, moi, ça me parle très fort, comment en fait, on a besoin de tout ça. Et notre conviction profonde, et c'est ce qui fait qu'on a fini par s'autoriser à écrire ce livre, et c'est de partager un horizon désirable commun qui mérite 1000 critiques. Et d'ailleurs, nos interlocuteurs et tristes ne s'en privent pas. Et on est, je crois, les premiers heureux de parfois se dire « Ah ouais, non, mais tel endroit, non. » Mais tant qu'on est du côté de « On a envie d'autre chose et on pense que c'est possible d'avoir autre chose. » Voilà.
Oui, moi, je ferais le lien aussi avec ce qu'on a dit sur la question de l'épistémicide et du coup de cette notion du culture du petit, du plouc, du paysan, de celui qui est dans son coin. Et en fait, c'était là ce que vient de tout expliquer Laura, quoi. C'est comment est-ce qu'on reprend la main, comment est-ce qu'on reprend confiance, comment est-ce qu'on se donne de la force. Voilà, pour pouvoir être en mouvement, quoi. Bah ouais, moi, je viens plutôt de ce milieu-là et de ce monde-là. Et c'est vrai que de traverser, en fait... ces différentes prises de conscience. D'écarter la main qui est au-dessus de nos têtes pour pouvoir relever les épaules. Il y a un peu ça. Et donc, du coup, une fois qu'on est en mouvement par rapport à ça, ça peut prendre plein de formes. Et moi, par rapport à la question de la violence et de mon évolution, ça, ça évitera pas des affrontements, en fait, quoi. Et ces affrontements, ils ont déjà lieu ici et là. Aujourd'hui, si le plat de résistance il s'est créé, c'est parce qu'on est allé en 2018 à plusieurs, à Notre-Dame-des-Landes, suite aux expulsions qu'il y avait, suite à l'arrêt de l'aéroport. Et la prise de conscience de l'importance des cantines pour qu'une lutte soit victorieuse et de pouvoir durer dans le temps. Comme les paysans, paysannes, je prends souvent cet exemple-là, en Inde, ils ont lutté contre l'agriculture libérale pendant plus d'une année en occupant l'entrée de certaines villes. Bon, ben, il ne faut pas longtemps pour imaginer que pour tenir une année, il y a toute une organisation, en fait, de la nourriture et de pouvoir occuper et rester. Et ben, et voilà. Et que, en fait, le niveau de violence, c'est déjà violent aujourd'hui, quoi. En fait, si on regarde le nombre dans l'agroalimentaire, de la grande distribution, de personnes en souffrance, en fait, au travail. Et là, c'est pareil, c'est ce pas de côté de comment est-ce qu'on décale, en fait. Et ça, c'est vrai qu'à Réseau Salarial, ça a permis de renverser le cerveau sur le plan économique, mais aussi sur d'autres trucs. Ce qu'on peut nous dire, quoi. Et en fait, c'est déjà violent, en fait, aujourd'hui, quoi. Donc, c'est pas. Et comme ça, c'est déjà pour prémunir que ça serait nous demain les violents. Mais non, quoi, en fait. Arrêtons de se sentir violent de ça, quoi, en fait. C'est...
Oui, et d'ailleurs, en fait, voilà, c'est l'occasion de rappeler que ce que vous dites sur, par exemple, les cantines, voilà, les cantines populaires, là aussi, ça articule vraiment deux temporalités qui sont imbriquées. Hein. C'est-à-dire la temporalité, par exemple, des luttes. Donc, notamment, le plat de résistance, c'est. On le rappelle, à la fois une association de production, de distribution et d'alimentation, donc avec une cantine fixe, voilà, une cantine populaire, et une cantine mobile qui permet d'aller soutenir les luttes. Et vous l'avez rappelé aussi, vous le rappelez dans votre livre, et quand on en discute, c'est que ben, les cantines, tu viens encore de le souligner, c'est une force d'organisation, c'est absolument nécessaire de se nourrir, mais c'est aussi une force collective de alors j'allais dire sociabilité, mais c'est pas le bon mot, c'est en fait une force pour se retrouver, pour discuter, pour reprendre des forces, mais à tous égards. Et donc c'est ce qui nous nourrit aussi, c'est vraiment se retrouver autour d'une table, etc., partager, et voilà, et bien sûr qu'on revient au point de départ, c'est-à-dire la question féministe, la question de, voilà, mais qui fait tout ça, qui fait à manger, qui fait la vaisselle, etc., voilà, qui s'occupe de tout ça, et donc ça repose la question de l'émancipation, et du coup, ce qu'on retrouve beaucoup dans vos propos et dans votre livre et vos pratiques, c'est, encore une fois, une sorte de révolution anthropologique, c'est-à-dire vraiment, c'est on change complètement nos critères, et donc révolution anthropologique au sens, ouais, oui, d'une révolution dans le temps long, parce que c'est l'humain qui est modifié par rapport à ce qui lui est assigné en général par le capitalisme, et en même temps, vous l'avez dit aussi, on peut pas se contenter de patience et longueur de temps, voilà, enfin, il faut aussi des moments d'accélération, il faut des moments de lutte, et du coup, ces cantines populaires, elles sont à l'échelle des luttes, mais elles nous disent aussi, elles nous ouvrent un horizon, voilà, une échelle beaucoup plus vaste, hein, ce que tu as appelé, en fait, Laura, les horizons désirables. Et peut-être qu'on peut terminer par là, c'est-à-dire que moi, j'avoue que je suis toujours assez surprise que les organisations, on va dire, je ne sais pas, politiques, syndicales, même, enfin, ne reprennent pas à leur compte ce genre de désirable, parce qu'on a besoin de ça, parce que du point de vue stratégique, on a vraiment besoin de... Alors, je ne vais pas dire nous réarmer, parce que ça serait justement un vocabulaire guerrier et militaire dont on ne veut pas forcément, même si la violence, il ne s'agit pas de l'occulter, hein, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire, Kevin, mais c'est la question de réalimenter, plutôt de renourrir ces projets, et pas seulement avec des revendications à l'intérieur d'un système qui continue de nous exploiter. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai été si enthousiasmée par votre livre et par tout ce que vous proposez, et qu'on a envie vraiment d'en discuter très largement. Et je sais aussi, on le sait, que les propositions de Réseau Salariat, de Bernard Friot, mais des camarades qui s'y retrouvent, sont assez mal acceptées, notamment au sein du propre parti dans lequel se retrouve Bernard, c'est-à-dire le Parti communiste français. Donc c'est quand même une... Je ne vais pas dire que c'est une énigme, parce qu'on peut le comprendre, mais en tout cas, il me semble qu'il faut absolument s'adresser, interpeller. Alors, ce n'est pas les organisations politiques qui sont forcément centrales à cet égard, mais ça nécessite de mettre en visibilité ces projets, et puis de les discuter avec lucidité, avec franchise, mais quand même, justement, qu'il y ait cette interpellation. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors, juste quand même pour apporter une nuance, l'idée de sécurité sociale de l'alimentation, pas forcément celle qu'on porte nous, mais en tout cas cette idée générale, elle est portée par certains syndicats, ceux qui se retrouvent dans le collectif Plus Jamais Ça, qui s'appelle maintenant Pour une Alliance Écologique et Sociale, je crois. Donc, comme quoi, bon, l'idée fait son chemin. Alors, à voir à quel point elle va coller à celle que nous on raconte ou pas, mais après, on est en dialogue avec plein de personnes impliquées syndicalement. Je pense qu'un des endroits qui font qu'avec Kevin, on s'est autorisé à mettre nos deux noms sur un livre, ce qui ne voulait pas rien dire pour nous deux, c'est peut-être cet endroit-là aussi de... On n'est pas candidat à quoi que ce soit. On n'incarne pas une ligne politique particulière. Alors, on s'inscrit tous les deux à Réseau Salariat et on ne s'en cache pas. Mais enfin, dans tout ce qu'on raconte, et si on l'a écrit de nos deux noms et que ce n'est pas un ouvrage signé Réseau Salariat, c'est parce qu'il y a des endroits où l'association en tant que telle ne se situe pas forcément. C'est des points qui font encore débat ou c'est des points tout simplement qui ne sont pas pris en compte pour l'instant dans les travaux collectifs de Réseau Salariat. Et pour nous, on le vit vraiment comme une grande force, en fait. Parce que du coup, ça reste que c'est un propos qui est soumis à débat, critique, contradiction, mais l'essentiel, c'est qu'on discute de qu'est-ce qu'on veut ensemble. C'est vraiment là que ça se joue.
Mais alors peut-être que les derniers mots de ce podcast peuvent être tout simplement les derniers mots de votre livre, parce qu'il me semble tout à fait révélateur de ce que vous proposez. Alors ces derniers mots sont tout simplement « L'avenir reste à construire et malgré l'air du temps nauséabond, tous les espoirs sont permis ». Et ça se termine d'ailleurs par bon appétit, évidemment, puisqu'il s'agit de bien manger et de manger aussi le plus possible ensemble. Voilà. Et donc, tous les espoirs sont permis. Voilà, ça traduit vraiment non seulement l'enthousiasme, c'est un mot que j'ai employé à plusieurs reprises, mais la confiance quoi, qu'il s'agit d'avoir. Et votre livre, il en donne beaucoup, de la confiance et de la force. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Kevin, merci Laura.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. J'espère qu'elle vous a intéressé comme nous l'avons été aussi. Je remercie beaucoup Gilles Martinet qui était à nos côtés pour nous permettre d'enregistrer ce podcast. Et Gilles qui est vraiment, encore une fois, un pilier de Spectre. On peut rappeler évidemment que le livre de Laura Bertercel et Kevin Certenay, « Régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation », a été d'abord publié par Riot Éditions en 2021 et est toujours disponible gratuitement sur le site de Riot Éditions, qu'il est aussi disponible gratuitement sur le site de Réseau Salariat et qu'il est désormais disponible également en ouvrage réédité par les éditions syndicalistes. Alors précipitez-vous sur cet ouvrage. Nous vous rappelons aussi que les liens pour accéder au téléchargement du livre sont disponibles sur spectremedia.org et nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode de C'est quoi le plan ? Spectre.